Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet à la fois national et d'actualité, mais à la façon de divergence, c'est-à-dire avec l'appui d'un expert de niveau national et aussi montpelliérain, et en prenant du recul sur un phénomène où se déploient instrumentalisation et approximation. Il s'agit de la drogue, des stupéfiants. L'actualité, c'est la proposition de loi sur le narcotrafic à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette semaine. L'expert, c'est Yann Bizou, que j'ai invité pour qu'il nous éclaire sur ce sujet complexe. Yann Bizou, je vous remercie de venir au Dicro de Divergence. Vous êtes maître de conférence en droit privé et en sciences criminelles à l'Université de Montpellier, Paul Valéry. Vous avez une expertise scientifique sur l'éducation, les ressources humaines et la santé publique. Plus particulièrement, depuis une trentaine d'années, vous travaillez sur les questions de stupéfiants. Vous avez été notamment membre du conseil scientifique de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie au niveau national, donc, et également expert, membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie. Avant de parler des stupéfiants, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Yann Bizou, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et que vous recommandez peut-être à vos amis de passage?
Alors, j'en donnerai deux. Le premier, c'est le musée Fabre, que j'adore, qui est vraiment un musée magnifique avec des collections remarquables. Et puis le deuxième, ben oui, ça va être un peu mon tropisme universitaire. Je vais parler du campus de Paul Valéry.
Alors ça mérite un développement parce que le musée Fabre, bon, il faut toujours rappeler que c'est un des plus beaux musées de France.
Tout à fait.
À la fois les collections et puis les expos temporaires. Mais l'université Paul Valéry, c'est moins attendu. En tout cas, c'est hors de l'Écusson, donc ça vaut le coup d'en parler.
Et ça vaut le coup de visiter. On a un nouveau bâtiment qui s'appelle l'Atrium, qui est absolument incroyable, fantastique, hein, qui accueille des
à la fois comme architecture et comme dispositif.
Et comme outil scientifique pour les étudiants. Enfin, on est sur des chiffres. Au premier semestre, on était à 10 000 étudiants par jour qui fréquentaient le lieu. Hein.
Donc, c'est une réussite.
C'est gigantesque. Et puis, on a vu les jeunes s'approprier le lieu immédiatement. Donc, ça, c'est très chouette. Puis on a un musée des moulages aussi qui est très beau, avec toute la statuaire antique, égyptienne, grecque, romaine. Donc
visitable aussi.
Et visitable l'après-midi. Donc n'hésitez pas à passer sur le campus de Paul Valéry.
Très bien. Et alors deuxième question sur ce chapitre, un peu une mise en jambe, comme vous le savez. Vous habitez Montpellier depuis environ 30 ans. Quel jugement portez-vous sur les profonds changements que vous avez vécus, que la ville a connus avec sa croissance démographique et les autres mutations?
Alors, je l'ai d'autant plus vécu que j'habitais... au tout début, j'habitais sur la place à la gare Saint-Roch. Alors, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et ensuite, j'habitais une petite maison, toute petite, rue du Moulin des Sept Camps.
Alors,
c'était au sud de Montpellier, perdu au milieu de la Garrigue, près de...
Ah oui, c'est ça, en périphérie.
Près du Lez, et on se promenait avec les enfants, et c'est aujourd'hui la mairie de Montpellier.
Ah d'accord, voilà. Donc, ça permet de repérer cet endroit qui était faiblement bâti. Alors, venons-en à notre sujet, les stupéfiants en France, pour comprendre quels sont les enjeux sociétaux, sanitaires, policiers et judiciaires de ce phénomène. Alors, pour que les auditrices et les auditeurs y voient plus clair et échappent aux idées reçues, pouvez-vous brosser, à grands traits bien sûr, le tableau de la consommation, donc de la commercialisation, certains disent trafic, des différents stupéfiants dans notre pays? Où en est-on?
Alors, où en est-on? Ben, on a des chiffres assez récents, en fait, puisque l'OFDT, qui est l'Office français des drogues et des toxicomanies, qui travaille sur le suivi statistique des stupéfiants, nous a donné de nouveaux chiffres en décembre. Donc, on a quoi? On a en numéro 1 le cannabis.
D'accord. Nous sommes le secteur, voilà. Un très grand nombre de consommateurs.
Le cannabis, c'est 900 000 consommateurs quotidiens. Donc des gens qui vont consommer au moins une fois tous les jours dans l'année. Et on a 6 millions de ce qu'on appelle consommateurs réguliers, c'est-à-dire des gens qui vont fumer une fois par mois, en gros. Deuxième, de plus en plus, c'est la cocaïne. Et la cocaïne...
Il va croissant ?
Voilà. Alors, il faut toujours relativiser, c'est-à-dire qu'on a un véritable boom sur la cocaïne. Hein. On a quasiment doublé le nombre de consommateurs. On est à plus d'un million de consommateurs réguliers. D'accord. Mais c'est quand même un rapport de 1 à 6 par rapport au cannabis. Le cannabis, c'est 6 millions de consommateurs réguliers, la cocaïne, 1 million. Mais la cocaïne, c'était 600 000. Donc là, on a une très forte augmentation de la consommation, notamment en région, et notamment sous forme de crack. Le crack, pour vos auditeurs, c'est quoi ? C'est de la cocaïne mélangée à un produit qui va la rendre solide et qui va permettre de la fumer.
D'accord. Ah d'accord, donc ça, c'est le mode de consommation, voilà, que le passage en crack permet.
Exactement, et donc en fait c'est une cocaïne coupée et qu'on va fumer et qui donne un effet quasi immédiat, et d'où son attractivité. Puis ensuite on a d'autres produits. Alors il faut savoir qu'en France on a plus de 400 produits considérés comme stupéfiants.
Alors ça c'est mal connu, vous l'avez dit quand on a préparé l'émission, il y a une espèce de, voilà, de variété, de catalogue si j'ose dire, qui est très divers avec des drogues différentes dans leur composition, dans leurs effets, et j'imagine dans leur gravité, dans l'usage.
C'est un inventaire à la Prévert parce qu'il n'y a pas de critères. Donc si vous voulez, vous pouvez classer un produit comme stupéfiant demain, hein, il suffit d'une décision du directeur de l'agence du médicament. Et puis, vous pouvez le retirer de la liste le lendemain, si vous le souhaitez.
Donc, il y a cette liste officielle des stupéfiants. C'est bien la dénomination officielle. C'est celle que j'ai retenue dans la plupart des questions que je vais vous poser, qui est une longue liste, donc qui est amendée, à chemin faisant, avec des produits qui sortent et d'autres qui rentrent.
Alors,
dans cette liste.
Beaucoup rentrent, oui, très peu sortent. D'accord. Ouais. Mais en réalité, et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que les problèmes qu'on rencontre, et si vous écoutez... les médias, on va parler de 4 produits. On va parler de quoi ? On va parler du cannabis, on va parler de la cocaïne,
l'héroïne.
On va parler de l'héroïne, et on va parler peut-être de ce qu'on appelle l'ectasy, les amphétamines, les nouvelles substances psychoactives. Voilà. Mais on en a 400. On a les champignons hallucinogènes du genre Stropharia, Conocyb, Psilocyb.
Oui, c'est parfaitement marginal.
Alors, il y avait des amateurs à une époque, il y a eu des gens qui faisaient...
LSD et compagnie, oui.
Voilà, alors le LSD a retrouvé une certaine mode. On a comme ça des effets de mode sur les produits. Et à l'intérieur des produits, sur le cannabis par exemple, ce qui est intéressant de signaler, c'est que le produit a changé de nature. Il y a 30 ans, c'était de la résine, c'est-à-dire la fleur compressée et concentrée. Aujourd'hui, de plus en plus, le marché, c'est la fleur séchée. Et d'accord. Donc, ce n'est pas les mêmes réseaux, ce n'est pas la même production. Ça n'a rien à voir. Et donc, sous le même nom, cannabis, vous avez d'une part la résine avec le trafic que l'on connaît institutionnel quasiment depuis le Maroc. Et par contre, sur l'herbe, elle est fabriquée en Europe, ici.
Hein. Au fond du jardin, pour certains.
Pour certains.
D'accord. Donc, un tableau général pour qu'on comprenne. Alors, dans cet état des lieux que vous venez de dresser, que faut-il en définitive garder en tête pour bien distinguer, vous l'avez un peu dit, l'importance du secondaire ? C'est-à-dire, en gros, on va s'essayer, 30 minutes, de décrire qu'est-ce qui se passe en matière de stupéfiants. Par rapport aux idées reçues, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre ? Par exemple, on peut se dire que la consommation, les nombres de consommateurs par produit que vous avez décrit, c'est bien sûr, c'est lié à la commercialisation telle que c'est organisée, réorganisée, adaptée. Alors, je ne sais pas si c'est l'offre qui induit la demande ou la demande qui induit l'offre. En tout cas, voilà, dans ce paysage que nous avons le plaisir d'écouter, appuyer sur votre savoir.
Ce qui est certain, c'est que l'offre, elle est pléthorique. Et il n'y a jamais eu autant de stupéfiants disponibles. Donc, l'accès aux produits, il est vraiment très simple. Très, très simple. Donc, et sur une gamme de produits assez large. Donc, on va évoquer tout à l'heure, je pense, la loi de narcotrafic. Les gens se sont inquiétés, par exemple, de l'existence de produits de plus en plus en zone rurale.
Oui.
Ce que j'ai montré à la commission narcotrafic, c'est qu'en réalité, il y a toujours eu de la drogue dans les campagnes, parce qu'il y avait moins de policiers, moins de gendarmes. Donc la drogue a toujours été. Qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'il y a tellement de consommateurs qu'aujourd'hui, il y a un marché de détail. Et dans le plus petit village, vous allez pouvoir trouver...
On sait qu'il faut exactement aller voir pour trouver sa dose.
Exactement. Et ce monsieur a suffisamment de clients pour que son métier, entre guillemets, soit rentable.
Voilà. Donc ça donne l'idée quand même, bon, de la diffusion en profondeur de l'usage des stupéfiants, vous les avez cités, qui je veux dire, pénètre profondément dans la société française, qui ne concerne pas... que quelques bobos branchés qui
non.
consomment de la coque pour faire chic.
Non, ça concerne absolument toutes les strates de population. Il y a une chose quand même qui est intéressante et que je souligne à chaque fois, c'est qu'on a plutôt un vieillissement de la population des consommateurs et on a une baisse de la consommation chez les jeunes.
Ah oui, mais ouais. Parce qu'ils se tournent vers d'autres formes, vers l'alcool.
Parce que le Covid est passé par là, et vous savez que parallèlement, on constate aussi une augmentation très forte du mal-être chez les jeunes, moins de sociabilisation. La drogue est souvent un outil
oui, sûr,
de
convivialité. Quoi.
Exactement. Et donc, si vous faites moins la fête, vous allez moins consommer.
Je reviens à vos chiffres, si vous avez le chiffre en tête. Est-ce qu'on peut donner le chiffre de consommateurs d'alcool en masse là? Peut-être vous avez le temps de le chercher, parce que pour comparer, pour avoir une idée des masses, en gros, la consommation d'alcool, j'imagine que ça doit être très important, je ne sais pas, 10, 15 millions, je ne sais pas, tous âges confondus, pour qu'on ait un repère pour mieux comprendre, mieux mesurer la masse des consommateurs de stupéfiants. Alors, pendant que vous cherchez le chiffre, merci. Question qui suit. Alors, afin de même mettre en perspective les débats politiques et médiatiques autour des stupéfiants, dites-nous, à grand T, bien sûr, encore une fois, merci de la synthèse, les réponses apportées sur le plan pénal, d'une part, et sur le plan sanitaire, d'autre part, aux dégâts provoqués par la consommation de drogue. Quelles sont, dans le système français, à la charge de l'État, donc, les réponses actuellement apportées?
Alors, avant les réponses, je vais peut-être répondre à votre question précédente. J'ai eu le temps de me précipiter sur ma note de l'OFDT qui nous dit... Donc, l'OFDT nous dit que pour l'alcool, c'est 3,3 millions d'usagers quotidiens, à comparer aux 900 000 usagers quotidiens de cannabis.
Plus,
voilà. Et pour le tabac, c'est 11 millions. 11 millions d'usagers quotidiens.
D'ailleurs, cette drogue légale... C'est quand même 11 millions. Quoi.
Oui. Et sur le tabac, ce qu'on constate, c'est une baisse forte de la consommation chez les jeunes, mais par contre, une augmentation récente du vapotage.
Ah voilà, parce que les autres formes de consommation. Alors, donc, ma question, j'y reviens pour qu'on retombe sur nos pattes. Donc, comment un descriptif à grand trait des réponses qui sont apportées, à la fois sur le plan pénal, policier, judiciaire, et sur le plan sanitaire, à ce phénomène massif de consommation de stupéfiants?
La répression, et la répression de façon aussi massive que la consommation est importante. En France, on a un système qui est un des plus sévères du monde. La prohibition date de 1916, pendant la Première Guerre mondiale.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est très ancien, du coup.
Voilà. Et jusqu'en 1970, on ne visait que le trafic et l'usage en collectif, en groupe. Et à partir du 31 décembre 1970, on a commencé à cibler l'usager, le consommateur.
Individuel, le particulier, quoi.
Voilà. L'idée, à l'origine, en 70, c'était de le menacer de la prison, donc une peine d'un an d'emprisonnement et 3 550 € d'amende. On le menaçait de la prison et on l'incitait aux soins. La réalité, c'est que ça n'a jamais fonctionné. Le soin a disparu, n'est resté que la peine de prison. Et depuis 2018, l'amende forfaitaire délictuelle. Donc, pour certains...
Alors, il faut expliquer ce que c'est, parce que bon, c'est un nouveau dispositif qui a suscité des débats, au-delà même de la question de l'usage des stupéfiants. En quoi ça consiste, en gros, cette annonce? C'est une espèce d'amende forfaitaire?
Oui, ça consiste quasiment... Enfin, si je suis critique, je dirais que c'est une taxe sur la consommation de cannabis en public. Si vous consommez chez vous, il ne vous arrivera rien. Si vous consommez dans l'espace public, vous pouvez être contrôlé. Et assez facilement, à ce moment-là, la police peut dresser un procès-verbal pour un délit. Pour un délit, donc ce sera inscrit au casier judiciaire, et par contre, la sanction est seulement de 150 euros, si vous payez tout de suite, 200 si vous ne payez pas tout de suite.
Alors ça, j'imagine, bon, ça a été une réponse pénale nouvelle, et en même temps, je dirais, un signal sur la croissance de la consommation. Enfin, où est la poule, où est l'œuf là,
j'ai écrit en fait un article au Dalloz, avant même la publication de la loi, en disant « ça ne va pas marcher ». Et ça n'a pas marché. Alors, ça sert la politique du chiffre. C'est-à-dire que vous avez quasiment 100 000 condamnations de plus pour usage chaque année. D'accord ? On est à 223 000, je crois, quelque chose comme ça, l'année dernière. C'est considérable. Mais vous avez un taux de recouvrement qui est très faible. Les amendes ne sont pas payées.
Ah, d'accord.
Parce que vous ciblez une population qui est hyper précarisée. Ceux qui vont consommer dans la rue le soir.
On voit de quelle population il s'agit.
18-25 ans.
Voilà, 18-25 ans, ou des jeunes. Garçons. Précarité de logement, etc.
Et des hommes, pas des femmes. Et donc vous avez un effet comme ça de ciblage des populations venant des quartiers défavorisés, très clairement dans les statistiques et le constat fait par le ministère de l'Intérieur. Et avec une autre conséquence, c'est qu'il n'y a plus aucune action vis-à-vis des mineurs. Parce que les mineurs ne peuvent pas faire l'objet d'une amende forfaitaire. Donc la police attend qu'ils aient 18 ans. Et comme il n'y a pas de dispositif, et comme il n'y a pas beaucoup de dispositifs...
Il y a un trou dans la raquette, comme on dit.
Exactement. On n'a pas renforcé la prévention et l'intervention auprès des jeunes. Il n'y a pas plus de moyens. Et par contre, la police qui intervenait sur les usages constatés chez les ados, et ben là, c'est fini.
Alors, un mot, vous l'avez brièvement évoqué un instant, sur, en matière de prévention, là aussi, quels sont les traits dominants de ce qui est fait ou pas fait pour affronter cette question des stupéfiants sous cet angle-là?
Comment vous dire?
C'est du coup par coup.
C'est deux choses. C'est un état défaillant et des militants motivés, en fait, parce que ça repose énormément sur le tissu associatif, qui fait un effort considérable pour prendre en charge, accueillir, prévenir, et avec un soutien de l'État qui est parfois celui de la corde avec le pendu. Parce que quand vous avez un ministre qui déclare il y a quelques années, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, c'est Gérald Darmanin qui explique qu'un usager n'est pas fait pour être soigné, mais pour être désintoxiqué, vous fermez la discussion. Donc ça repose en fait sur beaucoup de bonne volonté et beaucoup de bénévolat.
Donc c'est du coup par coup, c'est de...
Non,
c'est
vous avez des structures.
Oui, quand même.
Vous avez des structures qui sont très installées.
Mais qui sont quand même... Qui reçoivent des subventions publiques.
Les subventions, elles n'ont pas bougé. La consommation a augmenté. Pas les subventions.
D'accord. Donc les besoins ont augmenté, mais les moyens d'y faire face n'ont pas suivi.
Et en plus, de temps en temps, avec cette interrogation sur est-ce que l'État nous soutient vraiment ? Dans les années 2016, par exemple, il y avait eu un choix politique qui avait été fait d'affirmer ce qu'on appelle la réduction des risques, c'est-à-dire un soutien fort, symbolique et matériel aux acteurs de la prévention et de l'accompagnement. Et ça a disparu.
Oui, parce qu'on le voit, par exemple, sur la circulation routière. Ouais, je dis comment faire diminuer le nombre de blessés et de morts sur les routes, hein. Des campagnes répétées, massives, importantes, et me semble-t-il souvent avec une certaine efficacité. Il n'y a pas d'équivalent dans le champ des stupéfiants.
On a une campagne qui vient d'être lancée.
Oui,
là,
on l'a vu. À peine alarmiste. Donc si on ne l'a pas vu, bon, en gros, il y a des pays isolés, il y a des flammes, il y a beaucoup de choses.
Voilà,
et à la fin,
il y a des drames.
On va vous protéger de ça, madame, messieurs, les Français.
Voilà, il y a des drames, il y a des flammes, il y a des... Et c'est assez intéressant, je l'ai montré à mes étudiants à l'université, et la réaction était très intéressante. Il y a ceux qui savent ce qu'est la drogue, et qui ont trouvé que le message était complètement décalé, quoi. Ils ne l'ont pas pris pour eux. Or, ils sont les premières cibles, en principe. Et puis, il y a tous ceux qui ne consomment pas, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas d'amis qui consomment, Et alors ceux-là ne comprenaient même pas
ni l'objet, ni le
propos.
Message.
Voilà.
D'accord. Alors le temps file, on va en venir, donc on l'a évoqué, et vous l'avez fait vous-même, cette proposition de loi actuellement en débat à l'Assemblée nationale, très poussée par l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et par son successeur au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alors, d'abord, quelles sont les grandes lignes, les axes principaux de ce texte important, me semble-t-il, qui va constituer une nouvelle date, pas nécessairement réjouissante, au-delà de, si elle, même si elle peut rassurer certaines personnes, dans le cadre de ce phénomène des stupéfiants. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Eh bien, c'est la énième loi d'exception pour lutter contre le trafic. On est à plus d'une centaine de lois en 50 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on a une loi tous les 4-6 mois. Celle-là s'apprête à revenir sur tout un ensemble de libertés fondamentales et de droits fondamentaux au nom de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ce phénomène, on l'a déjà vu à l'œuvre. On cible d'abord un contentieux, le terrorisme, le trafic de stupéfiants, et ensuite on généralise. Et les atteintes...
On généralise les mesures, le régime d'incarcération, exactement. Notamment.
Alors, c'est tout. C'est l'enquête. C'est des pouvoirs d'enquête et des pouvoirs...
Il y a les pouvoirs d'enquête. Bon, semble que les avocats voient inaccessible une partie des pièces de la procédure.
Voilà. Il y a aussi le fait que, tout simplement, la police puisse avoir accès... y compris aux messageries privées et en fait avoir des moyens de contourner tous les dispositifs d'anonymat. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est pas possible sans faire sauter l'anonymat en fait. Et donc ça veut dire que concrètement pour tous les Français, et c'est là-dessus qu'alertaient les spécialistes du web, pour tous les Français ça veut dire fini WhatsApp. Hein,
ah oui, parce voilà. Que c'est bon, bien sûr. Parce
que et là, que vous soyez ou non trafiquant, ce sera le même régime.
Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les menaces, pas simplement sur les délinquants ou les criminels pour le coup, mais aussi pour le particulier, pour les citoyens. C'est-à-dire que l'esprit même de la loi peut conduire à ça.
Exactement. Et moi, il y a une disposition qui m'a fait très peur, par exemple, à titre d'illustration, c'est que l'autorisation donnée au préfet de fermer pendant 6 mois n'importe quel établissement ouvert au public s'il y a un lien plus ou moins
D'accord, c'est-à-dire avec s'il y a du trafic à côté, dans la rue voisine de cet établissement, il est menacé de fermeture. On peut le résumer comme ça sans
exactement.
Être approximatif.
Exactement. Et ça ne vise pas les commerces. Hein. Ça vise tout établissement. Et quand vous voyez, quand vous lisez l'étude d'impact et l'exposé des motifs, vous voyez qu'il cible aussi les associations. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Et imaginons le pire, c'est-à-dire un gouvernement peu démocratique ou qui a un rapport assez lâche à la démocratie, comme on le voit actuellement dans d'autres pays. Vous lui offrez alors là un outil pour fermer quasiment sans motif n'importe quelle structure qui serait en opposition, critique ou ce que vous voulez. Donc c'est excessivement dangereux.
Alors, pour poursuivre encore quand... quelques minutes sur ce point-là. Donc vous avez dit que les associations de défense des libertés et des droits humains sont mobilisées, notamment la Brigade de l'Homme. Mais je vais citer Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des lieux de privation et des libertés. Ce n'est pas un groupuscule extrémiste, c'est une autorité administrative indépendante. Que dit Dominique Simoneau ? Avec ce régime carcéral d'isolement tel qu'il est prévu, il y a un risque de fabrique des fous. Qu'en pensez-vous ?
Qu'elle a malheureusement raison, Dominique Simonet. C'est très, très
c'est-à-dire,
préoccupant.
Isolement dans des durées longues d'incarcération, qui plus est. Quoi.
Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, que j'étais encore étudiant et doctorant, j'avais visité la prison de Fleury-Mérogis, la prison pour femmes de Fleury-Mérogis. Et j'avais eu l'occasion, avec le directeur de la prison, de voir les conditions d'incarcération des femmes qui faisaient partie du groupe Action Directe, qui étaient à l'isolement.
Rappelez-nous leur nom, là.
Ménigon et...
Et Joël, enfin bref, oui.
Voilà. Et Et ça faisait des années qu'elles étaient à l'isolement. Enfin, c'est une horreur.
Dans un état psychologique.
C'est une horreur. Ouais, c'est une horreur. Et moi, je me souviens toujours de Robert Badinter lors des débats sur l'abolition de la peine de mort, à qui on disait mais, abolition de la peine de mort, mais votons la réclusion criminelle à perpétuité. Et qui avait répondu, dans ce cas-là, je voterai la peine de mort, parce que vous ne laissez aucun espoir aux gens. Et en plus, est-ce qu'on est capable de garantir cette super sécurité, ce qu'on voit...
Oui, dans les deux maisons d'arrêt que le ministre a choisi. Là, oui,
ce qu'on voit, c'est que la corruption augmente. Donc après, c'est une question de prix, hein, à un moment donné.
Alors, pour quand même donner quelques perspectives, en tout cas plus positives, donc, vous connaissez la manière dont ça a porté la réponse dans un certain nombre de pays. Alors, laissons de côté, on n'a pas le temps de les traiter. Bon, des voies qui ont été choisies qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes, mais est-ce qu'il y a quelques exemples dans d'autres pays qui montrent sinon un modèle absolu, mais un repère, une référence remarquable et dont les résultats positifs sont avérés, qui pourraient servir à la réflexion et peut-être aux décisions des responsables politiques français?
Oui, alors l'actualité nous donne deux exemples. Et en fait, dans deux directions totalement opposées. Il y a des pays qui ont choisi une hyper-répression. Et là, on vient d'avoir l'interpellation de Rodrigo Duterte, le président des Philippines, qui avait lancé carrément des exécutions extrajudiciaires.
Auxquelles il contribue lui-même, d'ailleurs.
Tout à fait. On parle, selon les chiffres, c'est entre 6 000 et 30 000 morts assassinés. Hein. C'est quelque chose d'absolument abominable. Et aux Philippines, ça n'a pas supprimé la consommation d'amphétamines. Hein. Donc c'est un échec. Et lui-même l'avait reconnu, l'échec de sa politique. On a des pays, hein, la Chine, la Corée du Sud, qui ont des politiques absolument répressives, excessivement rigoureuses, avec une mise au banc de la société, en fait, des consommateurs.
Oui, comme les pestiférés autrefois,
oui,
en France.
En Corée du Sud, si vous avez été interpellé pour usage de stupéfiants, non seulement vous devez vous désintoxiquer, vous n'avez pas le choix, mais en plus, ça veut dire toute votre vie, votre carrière est brisée, vous ne pouvez plus avoir d'activité sociale, enfin c'est terrible.
Et alors, de l'autre côté, sur le versant.
Et alors, de l'autre côté, on a ceux qui ont légalisé. Alors, peut-être préciser la différence, légalisation.
Oui, on va le faire brièvement, il y a deux voies. La dépénalisation et la légalisation, sans faire un cours de droit, mais...
Sans faire un cours de droit. Voilà. La différence, elle est sur la distribution du produit. Dans les deux cas, la consommation est possible. La différence, c'est que dans la dépénalisation, vous tolérez la consommation, dans un certain contexte, mais vous ne fournissez pas le produit.
D'accord.
Et donc, ça veut dire que c'est le trafic qui continue à fournir. Et c'est pour ça que j'y suis opposé. L'autre système, c'est la légalisation. L'État contrôle la production et la distribution du produit.
D'accord. Alors, un exemple positif, donc. Alors, on quitte les Philippines pour le Québec, d'après ce qu'on avait dit.
Le Canada en général, Québec en particulier. Québec a vraiment un modèle intéressant parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas légaliser, ils voulaient rester dans un système d'interdit. Et donc, c'est parce que l'État fédéral le leur a imposé qu'ils y sont allés.
Ah d'accord, le « là » a été donné par le gouvernement fédéral.
Voilà, et ils n'ont pas eu le choix. Et donc, ils y sont allés convaincus, hein. Et ça a marché. Et maintenant, au Québec, plus personne ne veut revenir en arrière.
Alors, quel est le système au Québec?
C'est un monopole d'État.
Ah oui, il y a un monopole des alcools, on l'avait évoqué.
Et vous avez la même chose sur le cannabis.
Il y a des lieux de vente des vins et il y a des lieux de vente de stupéfiants.
La SQDC, la Société québécoise du cannabis, qui vend... du cannabis qui est avec différents produits, différentes qualités, différents taux, et vous pouvez légalement acheter votre cannabis.
Très bien. Alors, on ne pourra pas prolonger le descriptif de ce système au Québec, mais ça donne l'idée à nos auditeurs et auditrices de la manière dont on peut répondre positive.
Eux ont fait la même chose que nous dans le même délai et eux, aujourd'hui, le trafic ne représente plus que 3 à 5% des sources d'approvisionnement.
Ah oui, c'est devenu marginal.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Yvan Bizio.
Merci pour l'invitation.
À une prochaine fois.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, un pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.